Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans un grain de blé, on pourrait par démultiplication nourrir toute l'humanité.
Jusqu'à 22h.
Quand vous semez une graine, bah, vous avez au moins une dizaine d'épis. Chaque épi contient à peu près 40 graines. Et si vous démultipliez, vous vous rendez compte que c'est l'explosion de la vie et c'est extrêmement puissant. Comme de toute façon, l'humain aussi. Hein, je veux dire, nous sommes aussi des graines à l'origine.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir dans la curiosité est un vilain défaut, à l'occasion du salon de l'agriculture, on vous raconte l'histoire du blé, vous l'avez compris, grâce à Benjamin Jérôme qui est journaliste au Parisien Magazine. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans votre article à paraître vendredi en partenariat avec RTL. Vous surnommez le blé le pétrole doré, pourquoi ?
Alors en fait j'emprunte cette expression à un analyste, le pétrole doré parce que en France on n'a pas de pétrole, du vrai pétrole, mais on a du blé, et ce blé on l'exporte beaucoup même.
Vous êtes parti en reportage pour cet article, à la rencontre notamment de Paul Boningue. Alors c'est un agriculteur, à quoi elle ressemble son exploitation? C'est un céréalier, parfois on imagine les grands céréaliers là, qui ont des terres immenses, c'est ça?
Alors c'est déjà un grand bonhomme,
par la taille,
un fier agriculteur. Je l'ai rencontré, il est exploitant près de Dieppe en Seine-Maritime. En fait, ils sont quatre associés dans un GAEC. Un GAEC, c'est un groupement d'agriculteurs, et ils font 430 hectares, ce qui est très raisonnable, dont 130 hectares de blé. Et pour eux, c'est une grande part de leur revenu, le blé.
Donc, ça ressemble à quoi la récolte de blé là en ce moment là au
Alors en ce moment ça,
février.
Pour être honnête, ça ressemble pas à grand chose parce que le blé est semé en octobre. Là, vous avez quelques feuilles. Enfin, c'est un tapis de feuilles vertes qui doit faire quelques centimètres de haut. Mais pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Mais dans quelques mois, ça aura beaucoup de valeur.
Ouais. Et un céréalier comme Paul Boningue que vous avez rencontré, ça gagne bien sa vie?
Alors, c'est pas parce qu'on c'est très compliqué, c'est une question compliquée, mais ça gagne pas très bien sa vie, dans le sens, je ne sais pas combien lui gagne, mais en fait les revenus des agriculteurs en France sont évidemment très dépendants de la réalité des cours du marché, ainsi de suite. Mm-hmm. Donc on peut produire beaucoup, c'est ce qui se passe d'ailleurs cette année. On parle en fait de campagne, la campagne 2014-2015, qui sera plutôt une bonne récolte, mais en même temps les cours du blé sont beaucoup moins intéressants qu'il y a par exemple 2 ans. Donc les revenus des céréaliers ont baissé. Et d'ailleurs les revenus des agriculteurs ont en général baissé sur les 2 dernières années.
De combien?
De 40%.
Bah, c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. On estimait, il y a des chiffres en 2012 qui était vraiment une année phare. 2012, il y a une année phare, on était à 56 000 euros de moyenne sur un an. Mmh. Là, on est plutôt à 30 000 euros en 2013. Et il faut bien voir aussi que ces chiffres cachent des disparités énormes. Il y a des agriculteurs qui gagnent très peu, très mal leur vie, qui sont en difficulté. Il y a des agriculteurs qui gagne très très bien.
L'exploitation du céréalier que vous avez rencontré, Paul Boningue, est en Seine-Maritime. Est-ce que c'est le premier département producteur de céréales en France ?
Non, c'est pas le premier, mais c'est l'un des départements producteurs de jeux. Alors, ça dépend si on regarde évidemment les céréales, le blé, ainsi de suite. C'est un des premiers départements pour le blé. Par contre, c'est un département qui exporte beaucoup. En raison de, évidemment, de c'est assez près de la mer, c'est près de Rouen. Je pense qu'on va en parler.
Oui, le port voilà. De Rouen, qui est un. Moi, j'ai découvert ça vraiment dans votre article, qui est une espèce de poumon du commerce des céréales en Europe. On racontera ça tout à l'heure. Mais le blé, à quel point c'est un atout économique pour la France si on essaye de comparer avec d'autres produits made in France?
Alors, je vais déjà le blé, on parle de blé tendre, une petite précision, le blé tendre c'est ce qu'on appelle le froment également, qui est dont en fait vous avez le blé dur qui va donner les pâtes et la semoule,
ouais.
En gros une fois transformé, et vous avez le blé tendre qui va donner le pain, mais aussi peut-être les biscuits, et on également ce qu'on appelle le blé fourrager, c'est-à-dire c'est du blé qui est donné aux animaux. Et donc le blé tendre pour la France c'est 91-92% du blé. Il y a un petit peu de blé dur mais on fait beaucoup de blé tendre. Et le blé c'est la moitié des hectares cultivés en France.
La moitié ?
La moitié.
C'est gigantesque.
Même si vous prenez le territoire, les villes, vous avez 1/10 de la France qui est cultivée en blé. Donc ça fait vraiment partie.
Attendez,
je le refais.
Non, non, sur si tout prenez, le territoire, pas, si les, vous, pas les terres alors, cultivables. C'est bien ce que vous avez
non,
dit.
Non, sur tout le territoire.
Si sur vous prenez tout le territoire français.
Voilà, si vous prenez tout le territoire français, vous avez, en gros, hein, un petit dixième de la France, c'est du blé.
Et elle exporte
de la métropole. Hein.
Son blé, la France ?
Mais pas tant que ça, en fait. L'exportation est venue. Pour exporter, il faut produire beaucoup. Et pour produire beaucoup, bah, ça a mis un petit peu de temps. C'est venu avec. Des procédés évidemment agricoles qui ont été mis en place, du savoir-faire, ainsi de suite, et on parle d'exportation depuis les années 60.
Voilà, et c'est un vrai secteur qui marche à l'export. Les exportations françaises de blé, tiens, c'est l'équivalent de 160 rafales vendues par an. Bon, bah, si on y arrivait là, ça serait pas mal.
Vous écoutez RTL. RTL,
toujours avec vous.
Le grain de blé est en tout premier lieu le fruit d'une plante à fleurs herbacées appartenant à la famille des graminées.
Jusqu'à 22h,
le grain de blé se présente sous la forme d'un petit œuf.
La curiosité est un vilain défaut.
Un réseau de protéines, constitué en grande partie de gluten, s'intercale entre les grains d'amidon. Ce gluten, responsable de l'élasticité de la pâte à pain, joue un rôle primordial au moment du pétrissage du pain.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Oh, moi, je vais sécher ce cours. Hein.
Bah oui, j'aime petite pas le leçon prof. Sur le blé avec une musique d'ascenseur un peu derrière, choisie par notre réalisateur André Facetta. Parce que ce soir sur RTL, à l'occasion du Salon de l'Agriculture, on vous raconte donc l'histoire du blé, ce pétrole doré, ressource force pour l'économie française. C'est ce que nous raconte Benjamin Jérôme dans un article à paraître vendredi dans Le Parisien Magazine, en partenariat avec RTL. Je ralentis, sinon je savonne. Benjamin Jérôme, la base stratégique du blé et des exportations agroalimentaires françaises, c'est le port de Rouen. Depuis quand ? Depuis longtemps ?
Depuis les années 60, en gros, et l'arrivée de la PAC. En fait,
La politique agricole commune.
La politique agricole commune qui a, il est vrai, boosté la production en France. Et en fait, les coopératives à ce moment-là, les coopératives qui sont donc des structures qui réunissent des agriculteurs, les coopératives où on trouve beaucoup de gens intelligents, se sont dit mais on produit beaucoup, on peut peut-être trouver des endroits où le vendre ailleurs. Et comme les coopératives, on trouve des gens intelligents, ils se sont dit ce qui coûte cher en fait, c'est de déplacer des quantités très lourdes sur la terre, donc autant les mettre sur des bateaux pour les envoyer à l'exportation. Et rien de mieux que pour ça, trouver un port qui est assez loin dans les terres. Et Rouen est devenue comme ça la plaque tournante de l'exportation agroalimentaire française.
Oui, évidemment, parce que Rouen, c'est un port fluvial.
C'est un port fluvial, voilà, qui a, je crois, 120 km en fait, le bateau doit remonter sur 120 km pour arriver jusqu'au port de Rouen.
Et c'est grand.
Le port, oui, c'est assez vaste. En fait, il y a plusieurs morceaux. Il y a ce qui s'appelle la presqu'île Élie, qui est le site historique. Et de là, vous voyez les clochers, parce que Rouen, je sais pas si vous le savez, mais évidemment, vous le savez, est connu pour tous ses clochers. Donc, on est un petit peu dans le cœur de la ville. Et puis, vous avez Grand Couronne, qui est à la périphérie de Rouen. Et c'est des secteurs qui sont très, très vastes, où on trouve évidemment des silos. Le premier date de 1961.
Qu'est-ce que c'est un silo ?
Un silo, c'est un grand tube vide dans lequel on stocke des céréales, voilà, tout simplement. Et vous avez aussi de l'industrie, de l'agro-industrie. Vous avez une semoulerie qui fait donc de la semoule avec du blé dur. Vous avez un meunier qui doit faire de la farine. Vous avez tout un tas de choses et c'est très très vaste.
Et le blé, Benjamin Jérôme, ça se transporte comment ?
Ça se transforme en
ça se transporte
en vrac, principalement en camion. Voilà, vous mettez 30 tonnes dans un camion. 70% du blé qui arrive à Rouen est d'ailleurs transporté par camion, mais ça arrive également par péniche et par le fer, voilà, par les chemins de fer.
D'accord, mais alors je voudrais bien comprendre. Donc il y a ces arrivées par différents moyens de transport, les silos. J'imagine qu'il y a beaucoup de silos sur le port de Rouen pour stocker le blé. Il peut être stocké pendant combien de temps le blé avant d'être ensuite expédié, puisque vous nous avez dit que la France était un gros exportateur.
Alors en fait, ça se passe pas directement du l'agriculteur au port. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a les coopératives encore, qui sont vraiment les chevilles ouvrières de l'exportation et qui, elles, possèdent des silos un petit peu partout dans les campagnes. C'est ce qu'on voit, les grands cylindres dans les campagnes. Les agriculteurs stockent au fur et à mesure de la moisson directement dans ces silos, ou alors ils stockent chez eux, sachant qu'en une, deux, trois semaines, tout est ramassé. Donc il faut bien trouver une place pour le mettre. Et après, au fur et à mesure de l'année, on vend du blé toute l'année, au fur et à mesure des achats par l'Algérie, le Maghreb, l'Arabie Saoudite ou
n'importe où. Vous ne citez pas ces pays par hasard, parce que ce sont nos principaux clients, c'est
ça ? Je ne cite pas ces pays par hasard. Le principal client pour nous, c'est l'Algérie, pour le blé. Au fur et à mesure où le blé est ramené sur le port de Rouen, le temps que le bateau arrive, hop, c'est chargé dans le bateau, ça part.
Benjamin Jérôme, vous avez assisté au chargement dans le port de Rouen d'un vraquier. C'est quoi un vraquier ? Vous posez beaucoup de questions, hein, mais...
Un vraquier, c'est tout simplement un grand bateau dans lequel on met en vrac les céréales. C'est-à-dire que c'est une grande boîte et puis vous la remplissez de grains de blé.
C'est impressionnant, ce chargement ?
Oui, c'est impressionnant, bien sûr. Un bateau, c'est grand, c'est beau. Moi, celui que j'ai vu était un Panamax. Alors, c'est des grosses bêtes qui font 250 mètres de long, on appelle ça des Panamax parce qu'en fait, ils sont calibrés pour passer le canal de Panama, c'est-à-dire qu'en largeur, si c'était plus large, ils passeraient pas. Donc voilà, ils ont la largeur pile pour passer le canal et ça fait 60 000 tonnes. Alors, quand vous voyez qu'un poids lourd est chargé de 30 tonnes, il en faut 2000 pour remplir un bateau.
Et ce vraquier, il a été destiné, il allait où en fait ?
Alors, ce vraquier là, c'était du blé fourragé qui allait en Thaïlande.
Donc du blé pour les animaux.
Du blé pour les animaux, voilà.
Mais c'est long à charger, parce que donc.
Ça va assez vite. Alors, ça va assez vite. Il faut compter. Ils sont équipés. Hein, en fait, vous avez un prestataire qui s'appelle Senalia, qui a. Imagine des gros tuyaux. Voilà, qui déverse des flots et des flots de grains. Il faut une journée pour remplir aux deux tiers le bateau.
Alors, ce vraquier, ce Panamax, j'ai découvert dans votre article à paraître vendredi dans le Parisien Magazine, Benjamin Jérôme, qu'il ne pouvait pas être chargé à plein. Pourquoi ?
Alors, pas un Panamax.
Alors, c'est pas celui-là, c'est d'autres vraquiers,
alors,
c'est ça ?
Justement, les Panamax ne peuvent pas être chargés à plein. Les autres bateaux, en fait, dans le transport de céréales, le maximum en taille, c'est le Panamax, en gros, 60 000 tonnes. Mais la plupart des bateaux sont des 25 000 tonnes, ceux-là peuvent être chargés complètement, et les 25 000 tonnes vont en Algérie. Les Panamax, il y a un problème, c'est que si vous le chargez trop, vous avez un problème de tirant d'eau, c'est-à-dire que le bateau s'enfonce trop dans le fleuve, et il se pose sur le fond, puisque le fleuve n'est pas assez profond. C'est-à-dire que vous pouvez charger un bateau pour qu'il n'y ait que 10,50 m sous l'eau.
Donc, et évidemment, après, c'est une perte pour le port de Rouen.
C'est un souci. C'est-à-dire que votre bateau, une fois qu'il sort du port de Rouen, il est obligé d'aller dans un autre port pour être complété. Donc, il va à La Rochelle, par exemple, qui est un port en haute mer. On rajoute le complément. D'accord. Mais évidemment, c'est un problème pour le port de Rouen, qui préférait que, et puis même pour tous les opérateurs privés, ils préféraient que le bateau, il ait qu'une destination. Tout ça, c'est de l'argent, hein. C'est économique. Donc, temps de location d'un bateau, des coûts supplémentaires.
Qu'est-ce qui se prépare à Rouen, du coup, pour changer
Alors, ce qu'ils ont simplement pensé, c'est creuser la Seine. En gros, l'idée est de rajouter 1 mètre de tirant d'eau. Donc, on va, évidemment, le fond n'est pas plat, donc on va retirer les crêtes qui sont au fond de l'eau. Je sais pas si c'est clair. On va retirer la terre. On va créer un chemin avec 1 mètre supplémentaire.
Mais ces travaux, ils ont lieu en ce moment?
Moi, je les ai pas vus. Ces travaux sont en cours. Ça doit continuer jusqu'en 2018. Ou 2017-2018, et je crois qu'il y a 17% du fleuve qui va être ainsi où il y a un problème de profondeur, où on va retirer des masses et des masses de terre.
Voilà, pour que Rouen continue d'être le premier port ou le deuxième port européen, je ne sais plus, en matière de céréales.
Alors, c'est
question.
Oui, c'est le deuxième port européen, puisqu'il s'est fait voler la vedette par un port roumain il y a quelques années.
Et ben voilà, il va falloir se bagarrer pour reprendre la première place. Merci beaucoup, Benjamin Jérôme. Votre article est à lire dans le Parisien Magazine, à paraître vendredi. Et puis je rappelle que le Salon de l'agriculture se tient jusqu'au 1er mars, porte de Versailles, à Paris.
Vous écoutez RTL.